Voici une question dont plusieurs aimeraient connaître la réponse. Comment est-ce que le royaume du millénium débutera sur la Terre? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense vraiment que le livre de l'Apocalypse saura répondre à plusieurs questions que posent les gens, et surtout les croyants de nos jours. Allons voir ensemble ce que sont ces questions. De quoi est-il question quand on parle de l'image de la bête dans le livre de l'Apocalypse? Qu'est-ce que les gens devront faire pour avoir le droit d'acheter et de vendre durant la deuxième partie de la grande tribulation? Est-ce qu'on peut connaître avec certitude le sens du nombre 666? Vaut-il la peine de chercher à le connaître? Qui est l'agneau et qui sont les 144 000 personnes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse? Où est la montagne de Sion? Où se tiendront l'agneau et les 144 000 personnes? Comment est-ce que le royaume du millénium débutera sur la terre? Qui vivra sur la terre pendant le millénium? Est-ce qu'un non-croyant peut chanter des cantiques de louange à Dieu? Demeurez avec nous, nos réponses ne vont pas tarder. Le Seigneur va nous les donner par sa parole, par la puissance de son esprit et par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies quand on la lit, quand on la médite, quand on l'entend prêcher. Merci pour le message que tu as pour nous dans ta parole aujourd'hui. Touche nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous à mieux te connaître, à mieux te servir. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous terminerons aujourd'hui l'étude du chapitre 13 de l'Apocalypse. Une image vivante. Lisons Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 17. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. » Premièrement, on remarque que la bête n'a pas acquis son pouvoir de son propre chef. Il lui a été donné. Aujourd'hui, le fait d'animer une image n'a plus rien de sorcier. Les dessins animés datent d'un peu moins d'un siècle. Des animations tridimensionnelles, très convaincantes, sont actuellement utilisées dans la réalisation de films à gros budget. Et d'ici quelques années, les hologrammes feront partie de la vie quotidienne. Mais tout cela, ce sont des trucages. Or ici, l'apôtre Jean va beaucoup plus loin. Tout d'abord, le verbe « animer » pour décrire l'activité de la bête est presque un euphémisme. Dans le texte original grec, nous avons deux mots. Le premier est traduit par « donner » et le deuxième est « pneuma », qui peut être traduit par « souffle », comme dans « souffle de vie » ou même « esprit ». La version de la parole de vie traduit le verset 15 par « donner la vie à la statue de cette bête », ce qui semble plus proche de l'original. Cette image de la bête reçoit un souffle de vie, et elle peut aussi parler. Là encore, même aujourd'hui, certains robots peuvent articuler quelques paroles préenregistrées. Mais la dernière caractéristique de cette image est vraiment étonnante. Elle pouvait condamner à mort ceux qui ne l'adoraient pas. Cela suppose une certaine forme de discernement de la part de cette image, et même possiblement de discernement spirituel. Nous quittons alors le domaine du technique et même du matériel. Le passage ne dit pas si l'image peut discerner une véritable adoration ou simplement repérer quelques gestes rituels. Nous pouvons facilement nous faire une idée de la vie pendant cette période. Même le Big Brother de George Orwell, dans son roman 1984, n'est jamais allé aussi loin. Nous assistons non seulement au viol des corps, mais également à celui des consciences et des âmes. Les gens n'adoreront plus l'image de la bête par amour ou même par révérence. Ils le feront pour conserver leur vie. Le nombre de martyrs risque d'augmenter en flèche. La liberté d'expression, la liberté de penser et la liberté de religion seront toutes interdites. La mégalomanie de la bête ne s'arrêtera pas là. Tous les citoyens, enfants ou adultes, riches ou pauvres, devront recevoir sur une partie de leur corps la marque de la bête ou son nom ou le nombre de son nom. Ils devront le faire pour pouvoir acheter ou vendre. Là encore, l'époque où nous vivons actuellement semble depuis peu nous fournir d'autres jalons préparatoires. Premièrement, depuis quelques années, la mode des tatouages s'est répandue comme une traînée de poudre parmi nos jeunes. Mais, à ma connaissance, ces tatouages ne sont pas effectués sous la contrainte. Or, au temps de la grande tribulation, les gens seront marqués comme du bétail. Depuis quelques années, les codes barrés aident à répertorier les produits à l'aide de l'informatique. Et plus récemment, on a commencé à parler d'introduire une carte puce sous l'épiderme des gens. Selon les promoteurs, cela nous dispenserait de traîner sur nous nos cartes d'identité et de crédit. Certaines tendances lourdes semblent nous rapprocher sérieusement de ce temps. Tellement qu'on est presque porté à oublier que l'Apocalypse a été écrite il y a près de 2000 ans. Comprenez-moi bien, tous ces faits divers ne sont pas l'accomplissement des prophéties, mais ils nous démontrent certainement que toutes ces prophéties pourraient s'accomplir. Et depuis quelque temps, les probabilités qu'elles s'accomplissent un jour semblent augmenter à une vitesse exponentielle. Quelle est la marque de la bête? Nous n'avons aucune information précise sur ce sujet. Mais bien sûr, plusieurs commentateurs y sont allés de leurs suppositions. Le nombre de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici la sagesse. Cette déclaration équivaut presque à de l'ironie lorsqu'on considère le nombre de spéculations bizarres et compliquées qui se sont accumulées au cours des siècles sur ce verset. Voyons si le grec du texte original peut nous aider. Exakousioi signifie 600. Exekonta signifie 60 et ex signifie 6. Voilà un bel arrangement de ce nombre, mais pouvons-nous aller plus loin? Il paraît évident qu'une valeur numérique est attachée à chaque lettre, mais le débat doit rester ouvert. Le nombre visible de la bête devra sans doute attendre le jour de sa manifestation pour qu'on connaisse son véritable sens. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que personne n'ait résolu ce casse-tête, même si beaucoup s'y sont amusés. Si vous voulez vraiment connaître la signification de ce chiffre, vous devrez attendre la période de la grande tribulation. Pour ma part, je ne suis pas vraiment pressé. J'irais même jusqu'à suggérer de ne pas perdre notre temps à essayer d'identifier une personne à partir de ce chiffre. Au lieu de cela, consacrons nos meilleurs efforts à présenter Jésus-Christ afin de réduire au minimum la population des pauvres gens qui devront passer par ce mauvais quart d'heure de la grande tribulation. Je ne pense pas vraiment que le fait de connaître la signification du chiffre de la bête sera une grande consolation pour eux. Je ne suis pas du tout anxieux de savoir quel est le chiffre de la bête. Je remercie le ciel de ne pas avoir à vivre ce pénible temps. Je suis reconnaissant de connaître Jésus-Christ comme mon Sauveur. Au lieu de passer mon temps avec l'Antéchrist, je veux mieux apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 10 trouvent en moi un vibrant écho. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. La seule leçon positive et importante à retenir ici est que la première bête est un homme. Cela nous enseigne à ne pas mettre notre confiance en aucun homme. Le prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8, nous donne de précieux renseignements sur le sujet. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Ce passage ne plaira pas aux hommes qui se glorifient de leur indépendance, et pourtant, ce portrait est réaliste. Sans la présence de Dieu en nous, nous devenons les jouets inconscients de forces spirituelles invisibles qui font de nous leurs esclaves. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens se mettent à fumer, à boire ou à manger à l'excès ou se livrent à d'autres pratiques qui leur nuisent? La pression sociale répond partiellement à cette question, mais il existe une autre pression, plus insidieuse, qui nous pousse lentement à l'autodestruction individuelle et collective. Ce passage du livre de l'Apocalypse ne soulève pas mon intérêt. Quant à savoir le nombre de la bête, l'identité de ce triste individu, ou quelque autre renseignement à son sujet. Mais l'Apocalypse me conduit à vouloir mieux connaître Jésus-Christ, car je désire vivement me rapprocher de lui. Je ne suis personne d'important. Je n'ai rien qui mérite particulièrement d'être mentionné. Pourtant, Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Sa présence me réconforte et me protège. Et par sa grâce, je serai pour toujours avec lui. Un avant-goût du millénium. Entre les sixième et septième sceaux, et entre les sixième et septième trompettes, nous avons eu droit à une pause. Ici, nous avons dû attendre après le septième personnage avant de l'obtenir. La raison est simple. Le sixième et le septième personnage sont les deux inséparables bêtes. Elles sont comme des siamois. Un interlude entre les deux aurait constitué une brisure dans la continuité de l'action. En d'autres mots, nous sommes donc arrivés à cet interlude après le septième personnage. On peut voir en passant que le livre de l'Apocalypse suit une séquence tout à fait logique. Il n'est pas seulement un ramassis de visions jetées pêle-mêle. Il se présente dans un ordre logique, chronologique et même mathématiques. Le chapitre 14 contient plusieurs événements. En plus de l'interlude où nous verrons l'agneau sur la montagne de Sion, nous entendrons la proclamation sans fin de l'Évangile, le verdict sur Babylone et les collabos qui auront reçu la marque de la bête, la louange de ceux qui sont morts dans le Seigneur et finalement, une avant-première de l'Armageddon. En plus des sept personnages présentés au cours des deux derniers chapitres, d'autres acteurs nous seront présentés afin de nous donner une vision complète des événements spectaculaires entourant cette période. Comme nous l'avons vu, l'humanité est rendue à son heure la plus sombre et la plus horrible de toute son histoire. Les démons font la fête et les hommes écopent, ce qui nous conduit bien sûr à nous demander comment le peuple de Dieu a-t-il bien pu se tirer de ce temps de catastrophe? Ont-ils pu rester fidèles au Seigneur Jésus jusqu'à la fin, malgré la terrible opposition qui sévissait contre eux? Nous trouverons la réponse à cette question dans ce chapitre. Le berger, qui nous a été présenté précédemment avec ses 144 000 brebis, est maintenant identifié. Il s'agit de l'agneau. Et nous verrons qu'il a gardé avec lui ses 144 000. Quand le décompte est fait, nous n'arrivons pas à 143 999, mais bel et bien 144 000. Elles sont toutes là. Il n'en a pas perdu une. Il les a rachetées, il les a scellées et il les a conservées avec lui, car il est le berger de son troupeau. Le troupeau actuel du bon berger est l'Église, mais pendant la grande tribulation, ses brebis viendront d'un autre troupeau que l'Église, car celle-ci aura été enlevée sur les nuées. Le chapitre 14 de l'Apocalypse s'ouvre donc sur cette scène. Nous pouvons trouver un encouragement dans le fait que le berger, et non pas les deux bêtes, aura le dernier mot. Car il n'est pas un agneau qui parle comme un dragon. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'il aura le dernier mot, Babylone tombera. Celle-ci est la grande capitale politique, commerciale et religieuse du monde pendant la tribulation. Et ceux qui auront suivi la bête seront jugés. Même si de nombreuses brebis du Seigneur deviendront des martyrs durant cette période, elles ne seront pas perdantes. En accord avec Jean Calvin, j'affirme qu'il vaut mieux être du côté de ceux qui semblent perdre aujourd'hui, mais qui gagneront à la fin, que d'être du côté de ceux qui pensent être des gagnants aujourd'hui, mais qui seront des perdants pour l'éternité. Jésus-Christ récompensera ceux qui lui auront été fidèles jusqu'au bout. Le but principal des gens du monde est de rechercher le plaisir et d'éviter la souffrance. Le but des chrétiens est de connaître Jésus-Christ. Et puisqu'il peut tout aussi bien se faire connaître à travers des expériences plaisantes que des expériences douloureuses, la notion de plaisir ou de souffrance devient secondaire. Elle laisse place à la joie de mieux connaître sans cesse notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi les gens du monde prennent parfois les chrétiens pour des masochistes. Leur aveuglement spirituel les force à juger les chrétiens à travers des grilles d'interprétation humaine, comme la psychologie, alors qu'elles n'ont rien à voir. Plus tard, au chapitre 19, nous verrons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, revenir physiquement sur la terre. L'aube pointe déjà à l'horizon. Le mal aura son temps, mais bientôt les ténèbres se dissiperont, et le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. L'agneau avec les 144 000. Chers amis, lisons Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son père écrit sur leur front. Je regardais, indique que l'apôtre Jean est encore le spectateur de ces événements. L'action se déroule et l'histoire des derniers jours se révèle. L'agneau est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons vu au chapitre 5, verset 7, ainsi qu'au chapitre 12, verset 13. La montagne de Sion est située à Jérusalem. Il ne sert à rien d'essayer de la localiser ailleurs que sur la terre d'Israël. Ce verset nous dépeint une scène calme, presque pastorale. C'est ainsi que débutera le royaume du millénium sur la terre. Le Seigneur Jésus règnera à partir de Jérusalem. Dieu lui-même l'a appelé la ville du grand roi. Actuellement, Jérusalem n'est pas la ville du grand roi. La violence y règne. Personnellement, je doute que Jérusalem ne puisse jamais retrouver la paix par des moyens humains. Seul Dieu pourra y établir l'ordre. C'est une autre preuve que nous ne vivons actuellement ni la grande tribulation, ni le millénium. Mais un jour, la promesse du psaume 2, verset 6 s'accomplira. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'intention de Dieu de placer le Seigneur Jésus sur le trône de David à Jérusalem et, plus spécifiquement, sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes, précise le texte. Ce sont ceux qui ont été scellés au chapitre 7. Je sais que certaines personnes ont exprimé l'opinion qu'il s'agissait des rescapés de l'Église. Je respecte cet avis, mais je ne le partage pas. Ces personnes sont des fils d'Israël, et ils sont passés par la grande tribulation comme les trois enfants hébreux sont passés à travers la fournaise. L'agneau se tient avec eux sur la montagne de Sion. Bien qu'il soit l'agneau, il est en même temps le berger qui prend soin de ses brebis. Même aujourd'hui, lorsque les pressions de Satan pèsent sur nos épaules, la victoire du Seigneur Jésus-Christ nous est accessible. Puissions-nous mieux le connaître, afin qu'il occupe à chaque jour une plus grande place dans notre vie. Jésus-Christ est la réponse. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes à la maison, au travail ou à l'église, en suivant un petit système légaliste. nous recevons beaucoup d'enseignements où chacun propose sa méthode pour réussir. Pourtant, nous voyons peu de chrétiens qui vivent réellement la victoire dans leur vie quotidienne. Voyez-vous, nous avons moins besoin d'une méthode que du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de le connaître d'une manière intime. Est-il toujours avec vous, peu importe où vous êtes, ou passez-vous des heures et même des jours sans même penser à lui? Nous avons tous besoin de nous rapprocher de lui. Quand lui avez-vous dit que vous l'aimiez? Aujourd'hui? La semaine passée? L'année passée? Jamais? Lui, il vous dit qu'il vous aime, si vous êtes prêt à l'écouter. Il se tient à la porte de votre cœur, et il frappe. Il attend votre réponse. Il vous a prouvé son amour en mourant pour vous sur la croix. N'allez pas croire que votre réponse n'a aucune importance pour lui. Il vous aime. Une chorale céleste sur la terre. Apocalypse, chapitre 14, les versets 2 et 3. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Pendant le millénium, les 144 000 se joindront à la chorale céleste. Pouvez-vous imaginer une chorale de 144 000 voix en parfaite harmonie? Le règne de Satan est enfin terminé. L'harmonie entre le ciel et la terre est revenue. Les 144 000 apprendront le nouveau cantique des cieux, et la terre entendra leur voix quand ils se joindront à l'harmonie céleste. Les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre, ils ont été rachetés afin d'entrer dans le temps du millénium sur la terre. Ils ne sont pas encore au ciel. Cette scène est un avant-goût du millénium sur la terre, et ces personnes vivront sur la terre. Les perdus ne vivront pas sur la terre. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Personne ne peut chanter des cantiques de louange à Dieu, sauf les rachetés. Oh, une âme perdue peut très bien émettre des sons de sa bouche qui ressembleront à un chant chrétien. Mais ces notes n'iront pas plus loin que le plafond. La seule parole que Dieu consent à écouter de la bouche d'un perdu est une parole de repentance. Il donne alors gratuitement son pardon à tous ceux et celles qui reconnaissent leur état pécheur. Écoutez le psaume 107, versets 1 et 2. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Comment voulez-vous qu'une âme perdue comprenne la bonté et la miséricorde de Dieu? Elle n'en connaît rien, car elle n'en a pas fait l'expérience. Seuls les rachetés peuvent vraiment affirmer la bonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de témoins fidèles qui n'ont pas peur, même aujourd'hui, de témoigner de la miséricorde de Dieu. Nous devons dire que Dieu est bon. Or, au temps du millénium, le ciel et la terre seront finalement en harmonie. Quel contraste avec le chapitre précédent, où la terre se rebelle contre le ciel sous l'impulsion des bêtes, c'est-à-dire de Satan lui-même. Ah, chers amis, vous avez le choix, soit de demeurer et de vivre dans le discorde envers Dieu, ou de vivre en harmonie en vous repentant de vos péchés et en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 14, les versets 4 à 12. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Il y a tellement de choses intéressantes sur lesquelles on pourrait s'arrêter aujourd'hui. Quel enseignement! Merci, Seigneur, de nous instruire comme tu le fais au cours de nos émissions. Mes amis, vous avez sûrement aimé tout cet enseignement qu'on vient de recevoir, et j'ai trouvé ça intéressant quand Régent nous a décrit ce qui concerne l'image de la bête, en parallèle avec la technologie qui existe déjà et qui pourrait nous mener exactement là. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est de savoir que l'Église de Jésus-Christ sera déjà enlevée quand les ravages de la bête commenceront. Gloire à Dieu! Et j'ai particulièrement aimé ce que Réjean nous a dit concernant le temps qu'on pourrait mettre à essayer d'identifier la bête à partir du nombre 666. Il a dit qu'au lieu de passer son temps avec l'Antéchrist, il aimait mieux apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense bien que tous les croyants sont d'accord avec Réjean, qu'il vaut mieux consacrer nos meilleurs efforts à présenter Jésus-Christ, à le connaître, afin de réduire au minimum la population des pauvres gens qui devront passer le mauvais quart d'heure de la grande tribulation. Et un peu plus loin dans la leçon, Réjean a posé une bonne question à nous les croyants en parlant de Jésus. Il a dit « Quand lui avez-vous dit que vous l'aimiez? » Mes amis, dans mon culte personnel, c'est-à-dire dans mon temps personnel avec le Seigneur le matin et le soir, j'aime lui chanter au moins un cantique d'adoration pour lui exprimer mon amour en retour pour le sien. Et souvent, le cantique fait suite à une prière qui vient du cœur, là où je lui exprime mon amour, ma reconnaissance, parce qu'il m'a aimé le premier, en donnant sa vie sur la croix pour moi. Et ensuite, je plonge mes regards dans sa parole pour apprendre à mieux le connaître, pour savoir ce qui lui plaît, pour lui demander son aide là où j'ai des difficultés. Et c'est aussi un temps de confession pour moi, un temps pour avouer mes fautes et lui demander de me pardonner mes péchés. Et je le remercie pour son pardon, parce que j'ai la certitude qu'il me pardonne. Dans la première épître de Jean, au premier chapitre, verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais pour toi, mon ami, toi qui n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, par la foi en Jésus seul, et si tu as de la difficulté à reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse, voici ce que le Seigneur te dit au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Alors, mon ami, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Il est écrit dans le troisième chapitre de l'Épître aux Romains, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle est au verset 24, où il est écrit qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, mon ami, je t'invite à te tourner vers Jésus. En ce moment même, quand on tourne vers lui les regards, la parole de Dieu dit qu'on est rayonnant de joie. Si tu veux avoir cette joie d'appartenir à Dieu pour l'éternité, eh bien, demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts pour toi, pour t'accueillir, comme ils ont été grands ouverts pour toi quand il est mort sur la croix, crucifié à cet endroit, et qu'il a tout accompli pour toi.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction.
Parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.